Vendredi 29 avril, merci d'avoir choisi Euradio. Je suis Hugo Noirteau, ravi de vous retrouver pour 30 minutes d'info locale.
La rédaction d'Euradio, au cœur de nos régions. À Lille.
Instant football aujourd'hui, consacré au RC Lens, son titre de champion de France en 98 et l'aventure européenne qui a suivi avec...
Stéphane Bijard, ça c'est mon nom depuis tout petit, hein. Et je suis dirigeant d'un cabinet de conseil en management et communication.
Euradio, l'invité de la rédaction de Lille.
Et vous êtes aussi auteur.
Et voilà, et nouvellement auteur.
Et justement, on va
sur
parler.
Le tard.
Et oui, mais il n'y a pas d'âge hein, pour écrire, je pense.
Hein, non, mais comme quoi quand même, moi, c'est sur le tard.
Oui, c'est bon, on
après
va en parler.
Après 60 ans, c'est pas...
Mais bien sûr, mais après, quand on est passionné d'un tel sujet, notamment le RC Lens, on va pouvoir en parler. Je pense qu'à mon avis, même à 100 ans, si on est encore en forme, je pense qu'on peut parler football, forcément, il n'y a aucun problème là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, à Stéphane Bijard d'avoir accepté notre invitation sur Euradio Lille pour pouvoir parler justement du RC Lens. D'ailleurs, c'est Euradio Lille et on parle du RC Lens. Donc bon, je veux pas froisser tous les auditeurs qui pourraient être supporters lillois, mais excusez-moi, il va falloir écrire un livre sur le LOSC de la même manière que Stéphane Bijard. Alors et là, on pourra éventuellement remettre les choses à niveau. En tout cas, effectivement, ce livre s'intéresse à l'année 98 quand le RC Lens est devenu champion de France et forcément, ça a des répercussions sur pas mal de domaines, notamment au niveau européen, on va pouvoir en reparler aussi, mais surtout cette année 98, c'est forcément l'année du titre. Quand on parle effectivement de cet effectif-là, de cet effectif de 98, il a quelle coloration c'est un effectif qui est pleinement français, j'ai envie de dire, quand on regarde avec le football moderne actuel, où il y a quand même des transferts de joueurs qui viennent de tous les pays du monde, etc. Pour bien comprendre cette image, cette photographie des champions de 98 que sont le RC Lens, et là on parle du championnat de France, pas de la Coupe du Monde, quel est-il en fait et à quoi ressemble-t-il?
Ah, très belle question. Alors, l'ossature du groupe, les fondations du groupe, elles ont été construites par Jean-Luc Lamarche, qui était à l'époque directeur sportif et recruteur et qui a composé un peu cette base. C'était une équipe du centre de formation au départ, très franco-française, mais vraiment avec des gens qui ont vécu, j'allais dire, plusieurs années ensemble. Depuis, ça fait des années qu'ils vivent ensemble, ce noyau dur. Après, il y a eu l'amalgame, le décorum qui va donner un peu de relief et de puissance au système de joueurs étrangers. Un que moi j'ai adoré dans sa posture, dans son impact, dans sa discrétion et en même temps dans sa démarche, c'était Vladimir Smicer, international aussi, hein, mais plutôt au pays de l'Est.
Oui, il me semble qu'il était serbe, lui, je crois.
Voilà,
attendez que je regarde, non, je ne vais pas dire de bêtises.
Oui, je ne sais plus par rapport au...
Le tchèque, il est tchèque effectivement,
oui, Vladimir Smicer.
Voilà, tout à fait.
Mais un garçon exemplaire dans sa posture, dans son engagement, dans son professionnalisme, enfin, c'était incroyable. Marc-Vivien Fauré, forcément, quand même, qui a aussi marqué l'équipe et le groupe, hein, un peu à la Fofana actuelle, hein, peu, c'est un peu dans les mêmes postes, si on prend le Lens d'aujourd'hui. Et puis, la petite touche aussi étrangère avec le plus gros transfert du club à l'époque, puisque arrivait Anto Drovnjak, qui arrivait...
Lui, par contre, est serbe-monténégrin à l'époque.
Voilà, serbe-monténégrin, et qui lui arrivait à l'époque, je crois, de Bastia, si ma mère est bonne, et qui avait été recruté, alors, tenez-vous bien quand même, c'est assez drôle, pour 14 millions de francs. 14 millions de francs. Et à l'époque, c'était un énorme transfert, c'était le plus gros transfert de l'histoire du club. Bon, quand on regarde ce qu'on fait avec 14 millions de francs aujourd'hui...
Pas faux. Pour faire la conversion, c'est vrai.
En euros, etc. Enfin bon. C'était les trois seuls étrangers de mémoire, mais n'empêche qui étaient des incontournables dans l'équipe, enfin, qui étaient tous plus ou moins titulaires en permanence, quoi.
Absolument, si on regarde la composition, en effet, en tout cas, la composition des titulaires réguliers, en tout cas, ces deux-là, Drobniak et Smicer, étaient forcément très... des pièces majeures en fait de l'effectif, parce que mine de rien ces deux-là, si on pense notamment
Fauré
à
aussi, hein,
oui bien sûr, tout à fait, après je parle essentiellement de ces deux-là parce que effectivement Fauré était malgache si je dis pas de bêtises,
ouais.
Voilà, donc forcément c'était un tout petit peu en effet en dehors de l'Union Européenne pour ce qui concerne la ligne éditoriale de la radio.
Ah,
voilà.
Oui, okay.
Si je recentre un tout petit peu
par rapport à l'Europe, bien sûr,
mais en tous les cas voilà, tout à fait, il y a pas de, évidemment Fauré était tout à fait aussi dans ce noyau dur, vous l'avez parfaitement dit, mais Drobniak, pour revenir à à lui. C'est quand même 32 matchs, 14 buts. Smithers, c'est 28 matchs et 7 buts aussi durant le championnat. Donc quand même des bonnes statistiques.
Ah oui, énorme.
Donc forcément, ça a forcément joué ça.
Bien
aussi. C'est ce qui a permis aussi de ramener le titre. Quand on regarde aussi, forcément, l'entraîneur de l'époque, qui est-il et comment a-t-il composé cette équipe, si on peut essayer de résumer, parce qu'on pourrait passer des heures forcément à parler de cette équipe-là. Mais quelle a été la petite touche de cet entraîneur-là et comment ça s'est passé dans l'organisation?
Alors, j'allais dire, il n'a pas composé l'équipe, parce que c'est pas lui qui l'a créé, cette équipe, par rapport à d'autres entraîneurs qui vont aller chercher, je voudrais tel joueur, tel joueur, tel joueur.
Son système de jeu, j'entendais.
Alors, par contre, il a créé, il a su tirer le meilleur, en fait, de chacun de ses joueurs, en le mettant au bon endroit, à la bonne place, et surtout au bon moment aussi. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des joueurs qui étaient plus ou moins, même ceux-là, même les qui étaient plus ou moins en forme à des moments clés, quelque part, savoir aussi retirer ce joueur-là, même si c'est un titulaire incontestable. Donc c'est tirer le meilleur de son équipe. Ça, vraiment, c'était quelque chose de très important. Et c'est là où, moi, je l'ai beaucoup aidé, parce qu'en fait, au départ, il tirait le meilleur de son équipe, mais en voulant corriger les défauts. Notamment, tu fais une mauvaise passe, t'as pas un bon contrôle, tu fais pas ceci, et là, je te corrige, et je t'engueule, et c'était très difficile, parce que les joueurs finissaient par être épuisés de ça, parce qu'il était tellement exigeant avec eux, mais sur des détails durs, presque humiliants parfois, que c'était compliqué. Par contre, moi, je lui ai dit, garde cette même exigence, parce qu'il n'y a pas de performance de haut niveau sans exigence, ça n'existe nulle part, que ce soit dans l'entreprise, dans le sport de haut niveau, partout. Par contre, mets cette exigence au service de la force de chacun des joueurs. Au début, ça a été compliqué parce qu'il n'y croyait pas trop. Et moi, j'ai jamais fonctionné comme ça, je vois pas pourquoi ça marcherait. Sauf qu'il s'est rendu compte de l'impact que ça avait, non seulement sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan de l'énergie, de l'envie, de la motivation. Et c'est ça qu'il a su faire. Donc du coup, la patte, elle a été plus dans sa capacité à mieux comprendre cet effectif qu'il avait dans les mains et de lui procurer un jeu dans lequel il se retrouvait, qui était un jeu très offensif. Un 4-3-3 à l'époque, très classique, mais toujours en allant vers l'avant, même à un certain moment. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre. Il était interdit de faire une passe en retrait. Vous dire, on s'interdit de faire une passe en retrait, c'est-à-dire que tu te démerdes, tu la mets en touche, tu la mets vers l'avant, mais jamais en retrait, quoi. Donc quand on voit comment ça peut circuler parfois, non, c'est vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Donc voilà, c'est vraiment un effectif qu'il a peaufiné, optimisé, enrichi à partir de ce qu'ils avaient en eux, mais dont ils n'avaient pas encore conscience.
De l'ombre à la lumière du Nord, c'est le nom de votre ouvrage, forcément aux éditions J'ai d'encre, avec une préface aussi de Gervais Martel. Vous étiez comment vous avez réussi à avoir Gervais Martel dans votre préface, qui est forcément une figure emblématique?
Oh ça a été très simple, ça c'est. Je suis toujours resté en contact avec Gervais. Enfin, vu ce qu'on a vécu ensemble, c'est des choses qui sont indéfectibles. Donc, quand j'ai décidé d'écrire ce livre, j'ai appelé Gervais. Je lui dis, il n'a même pas lu encore, rien du tout. Je dis voilà, Gervais, je vais écrire un livre sur notre histoire. Est-ce que tu acceptes d'en faire la préface? Il m'était pas bien évidemment. Enfin, il y avait même pas l'ombre d'une hésitation. Alors, la seule chose qui a été drôle, c'est « Mais qu'est-ce que je vais raconter dans cette préface ?» C'était plutôt comment je l'aborde, qu'est-ce que j'y dis. Mais le fait de la faire, là, c'était une évidence pour lui. Et je le remercie.
D'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas forcément quel rapport vous entretenez avec le RC Lens, est-ce que vous pouvez nous expliquer forcément quel est ce lien qui vous rattache au club ?
Pour l'anecdote, quand même, ce qui est assez drôle, c'est que avant ma rencontre avec ce club, avec ses dirigeants, avec Gervais, avec Daniel et autres, je n'avais jamais mis les pieds dans un stade de foot. Jamais. Donc, j'étais sportif, supporter du sport, supporter du football au sens, comme j'ai cru comprendre Zémy Saint-Etienne, moi j'ai suivi Saint-Etienne.
Attention,
quand j'avais 16 ans.
Faut pas le dire ici, parce que sinon je vais avoir des problèmes.
Non, mais quand j'avais 16 ans, moi je me souviens de cette grande équipe européenne, je regardais les matchs de Coupe d'Europe, l'équipe de France, mais j'étais pas supporter d'un club, quoi. Donc, et quand on m'a parlé de Lens, Gervais Martel, Daniel Leclerc, pour moi ces noms, ça disait rien, quoi. Et quand j'ai découvert, quand la première fois que vous rentrez dans cette cathédrale, parce que c'est une cathédrale vide, mais qui résonne quand même de quelque chose, pas une claque, c'est un uppercut, c'est un...
Vous parlez du stade Félix Bollaert.
C'est un knockdown d'entrée, ouais, quoi. Oui. Même la première fois qu'on y met les pieds, quoi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, ça a été un moment d'un seul coup, mon rêve devenait réalité, pouvoir vivent de l'intérieur le sport de haut niveau, quoi. Dans un club où en plus il y avait une ferveur, un engouement, et regardez encore aujourd'hui, enfin c'est il y en a pas 50 des clubs comme ça dans le monde, quoi.
Forcément, c'est le RC Lens. Le RC Lens, c'est à la fois une figure emblématique du football français, mais du football européen, parce que voilà, forcément, hein, conjointement à ce titre, il y a forcément eu une campagne européenne derrière. Et cette campagne européenne, on n'était pas loin d'avoir des résultats exceptionnels, hein, pour le RC Lens.
Alors, c'est même pire que ça, c'est que Lens n'a jamais eu un titre jusqu'à ce titre-là, mais a eu des grands moments dans son histoire. La fameuse finale de Saint-Étienne en Coupe de France, mais le fameux, jusqu'à l'époque, le Lazio de Rome. Le fameux match de la Coupe d'Europe. Il y a eu déjà des moments emblématiques du football européen avec Lens. Mais ce qui nous a permis, ce qui a été extraordinaire après ce titre, et ce sera probablement le prochain, le tome 2 que je ferai, probablement, qui s'appellera « De l'ombre à la lumière de l'Europe ». Parce que du coup, ce titre a ouvert aussi une magnifique campagne qui a duré quand même pendant 3-4 ans par la suite, où on a fait quand même la Coupe d'Europe, la Champions League, enfin ça a été, on a été jusqu'en demi-finale quand même de ce qu'on pourrait appeler l'Europa League aujourd'hui, avec Arsenal qui avait tout gagné, avec Kaiserslautern, avec Bayern de Munich, avec enfin Celta Vigo, avec des matchs mais extraordinaire de tension. Quand je passe ce qui se passe, moi je me souviens d'être allé à Kiev, quand je vois ce qui s'y passe aujourd'hui, la ferveur de cette ville aussi pour le foot, enfin c'était extraordinaire, quoi. Donc oui, et du coup Lens est très connu en Europe, très connu par son foot. C'est ça qui est incroyable.
En effet, et d'ailleurs vous parlez de cette compétition européenne, cette première compétition européenne pour le RC Lens, donc en 99, enfin fin 98, début 99, avec des matchs quand même qui aujourd'hui feraient rêver et font sans doute rêver aussi ceux qui ont connu forcément cette époque, Arsenal à Wembley, et d'ailleurs faut le dire, hein, c'était la première fois qu'un club français battait Arsenal à Wembley, ou tout du moins remportait un match tout simplement à Wembley, qui est l'antre du football européen pour beaucoup.
Et on parle du Wembley historique.
Pas
le nouveau stade.
Oui, hein. Bien sûr.
Moi, je me souviens quand on est arrivé la veille, parce que à partir de ce moment-là, j'ai fait tous les déplacements en Coupe d'Europe, etc. On est arrivé à Wembley, ce stade incroyable en pierre. On arrivait dans les vestiaires, il y avait des graffitis, c'était désuet, mais ça sentait la sueur et ça sentait l'histoire du football. Le football est né là-bas. Il est né à Wembley, le football, quand même. Et quand tu rentres dans un truc comme ça, c'est waouh, c'est extraordinaire, quoi, extraordinaire.
Absolument. D'ailleurs, ensuite, il y a eu un autre club extraordinaire, historique du football européen, Panathinaikos évidemment, et le Dynamo Kiev. Il y a eu des victoires, il y a eu, je crois, une défaite et quelques matchs nuls, et c'est ça qui a fait basculer troisième place. Ça empêche à un ou deux points grand maximum de passer en quart de finale. Ça a été dur à vivre quand même, de passer si près d'une qualification en phase finale.
Ouais, puis en plus ça se joue tellement rien, parce que ce fameux match à Wembley, là aussi sur un plan logistique c'est extraordinaire, il faut se rendre compte quand même qu'à l'époque le stade de Wembley c'était 80 000 personnes et le stade était quasiment rempli à moitié de l'Ansois, la moitié de Wembley, c'était pas une jauge d'un parc, hein, c'était... Et avec des trains entiers, des bus entiers qui arrivaient, enfin c'était un truc de malade. Et on gagne ce match de manière héroïque avec ce but, je crois que c'est 67e minute de mémoire, enfin je sais plus, extraordinaire. Et cette faute à la fin, ce carton rouge qui nous pénalise, qui est un vol manifeste, parce qu'il n'y a jamais eu carton, le mec il tombe tout seul et il y a carton à la 90e minute. Et du coup on perd Tony Verrel à l'époque, et le match retour on est un peu traumatisé par ce truc et on perd, mais on perd de rien en plus contre Arsenal au match retour, enfin c'était, mais après c'est l'expérience, c'est voilà, et on dit toujours bah regardez le Real aujourd'hui, ils sont difficiles mais ils gagnent, mais voilà, c'est 10 titres, c'est bah nous on découvrait l'Europe, il y a des petites choses après que voilà quoi, hein, c'est
ça a quand même lancé justement sans aucun mauvais jeu de mots toute cette effervescence forcément du Nord avec Lens, puis ensuite Lille, et puis on peut compter tous les autres clubs forcément qui sont dans le département, hein, Valenciennes, Dunkerque, etc. Est-ce que c'est justement ça aussi qui a fait refleurir un petit peu cette gloire du football nordiste? Est-ce que ça a été un point de départ peut-être jusqu'à aujourd'hui?
Je sais pas.
Je vous pose la question, justement.
Oui, non, mais alors par contre, c'est sûr que ça, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que pour vous donner un exemple, dans le livre, on réfléchit sur le projet du club, j'en parle, on fait ça au Touquet, Et à l'époque, on avait, donc je parle, on est en décembre 97, on avait 8000 abonnés sur 45000 potentiels.
Donc ils venaient régulièrement au stade.
Voilà. Et sur tes 8000 abonnés, c'était des gens qui venaient de partout de la région, pas simplement de Lens. Même si on dit que la taille de la ville de Lens est dans le stade, mais un an et demi plus tard, même pas l'année suivante, enfin, on est à 32000 abonnés. Et on a même bloqué, à l'époque, le club a bloqué les 32 000 parce que du coup, il n'y avait même plus assez de place pour des gens qui venaient à l'extérieur, quoi. Donc, on avait bloqué la jauge à 32 000 parce qu'autrement, c'était compliqué. Et là, du coup, c'est une effervescence régionale. C'est, je crois qu'une des plus grosses sections, elle était sur la côte d'Opale, en dehors de Lens. Enfin, il y en avait de partout, quoi. Parce que les gens avaient retrouvé, et c'était ça le vrai projet de Gervais à l'époque, c'était pas de gagner au sens d'avoir des titres, c'était de faire en sorte que ces gens du Nord soient fiers, montrent qu'on peut leur parler autrement que de la misère, que de la pauvreté, que de Germinal, que de ceci. Non, on peut gagner, on peut être beau, on peut être fort, on peut être brillant, on peut rayonner dans le monde, on peut voyager, on peut se déplacer. Et je peux vous dire que des Lensois qui se déplaçaient jusqu'à dans tous les matchs en Coupe d'Europe, c'est des sacrifices économiques, financiers, mais peu importe. C'est pour rayonner, c'est pour montrer qu'on est là. Donc oui, il y avait quelque chose socialement qui était très important. Très, très important.
D'ailleurs, on en a parlé en off tout à l'heure. On se disait que, effectivement, il y avait des similitudes entre ce que vivaient les Lensois, ce que vivait le RC Lens et tous les autres grands clubs d'Europe encore aujourd'hui. Manchester en Angleterre, Liverpool, puis il y en a forcément eu d'autres, hein, Dortmund en Allemagne aussi. Tous ces clubs très industriels ou tout du moins ouvriers, enfin, ces villes, pardon, ces territoires vraiment industriels et ouvriers. Et finalement, oui, ce sont des similitudes. Similitude qui marque vraiment et qui donne une atmosphère particulière comparée à d'autres villes.
Je pense que quand vous regardez un petit peu l'écosystème européen, voire mondial, ça je sais pas, faudrait regarder un peu plus loin, mais vous avez deux types de clubs très connus au niveau du public. C'est des clubs dans des lieux où c'est compliqué. Manchester, vous parliez tout à l'heure, enfin tous ces clubs, Saint-Étienne, etc. C'est des mines, c'était une démarche sociale, c'était là où on pouvait se ressourcer, se regrouper, se retrouver.
C'est un exutoire,
un exutoire, un lieu, enfin voilà. C'est tout un passage très important du livre pour montrer comment Lens est ancré dans son histoire, est ancré dans sa région, est ancré dans son écosystème économique aussi. Et puis vous avez des capitales, mais là c'est autre chose. Après c'est deux autres approches. Mais du coup, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que j'allais dire, vous n'allez pas recruter les mêmes joueurs non plus, quoi. Si vous prenez des joueurs qui viennent là pour briller, comme dans une capitale paillette, ils pourront jamais prendre racine dans ce club, c'est pas possible. Il faut des gens qui comprennent cette histoire, cette culture. D'ailleurs, peut-être que 3-4 ans plus tard, on a eu une filière africaine qui s'est énormément développée. Moi, j'ai dit, mais arrêtez, quoi. Parce que il y avait trop de joueurs qui venaient d'Afrique. C'était une filière, entre guillemets, pas très chère, avec d'excellents joueurs. Sauf que quand vous arrivez d'Afrique et que vous venez vivre dans le Nord, au niveau du climat, au niveau de la manière, on vit pas dedans, on vit dans les maisons.
Ouais, c'est difficile de s'adapter, oui.
Alors que il y a eu très peu d'échecs de recrutement des pays de l'Est. Parce que du coup, il y a beaucoup de similitudes aussi culturelles, de difficultés, de climat, de manière de vivre. Je pense que la réussite d'une équipe, c'est pas simplement sur le terrain, c'est aussi cet ADN-là, ces racines-là, ces forces-là. Et moi je dis toujours, quand on met la bonne terre au bon endroit au bon moment avec la bonne plante, ça pousse, quoi. Et c'était aussi ça, cette alchimie, quoi. Il y avait vraiment un respect de cette histoire, respect de ces cultures et respect de ce côté. On est besogneux. Mais on va montrer qu'on est capable de faire des belles choses, quoi.
C'est intéressant, justement, de cette description de l'effectif à première vue, effectivement, avec un effectif qui était principalement, effectivement, français au départ.
Et local.
Et local en 98. Comment ça a évolué ensuite? Comme vous le dites, est-ce qu'il y a eu cette filière africaine? Il y a eu aussi peut-être davantage de recrutement des pays de l'Est ou alors lusophone, Portugal, Espagne? Comment ça se passe, en fait?
Non. Il n'y a pas eu beaucoup, les pays de l'Est. Il y en a très, très peu. Alors, il y en a eu quelques-uns, mais c'était, on se souvient, Krosnik, des gens comme ça, mais c'était un peu des joueurs de passage, mais non, je pense que la grosse fragilité, en tout cas sur l'effectif, une des grosses fragilités, ça a été justement cette filière africaine. On a été pénalisé, je me souviens quelle année c'était, 2000, je sais plus les dates précises moi, mais où les joueurs étaient partis à la CAN. On a l'impression qu'on n'avait plus personne dans le club, quoi, parce que ils étaient tous partis. Forcément, ils étaient tous dans les meilleurs internationaux, dans des équipes africaines, donc c'était compliqué pour jouer après, quoi. c'était un déséquilibre quelque part. Déséquilibre au sens à la fois d'effectif, mais même culturel, entre guillemets, quoi. Pour que ça se vive bien, que ça se partage bien et que ça se complète bien.
Et justement, vous avez, enfin, le club a changé directement de stratégie après peut-être cet échec ou tout du moins cette pénalité de la filière africaine ou...
Après, c'est autre chose. Il s'est passé plein d'autres choses. On part dans d'autres. C'est une autre histoire. J'allais dire, le club a vite d'autres aventures qui vont être plus compliquées, même internes. Enfin bon, mais ça, c'est un autre sujet. J'ai pas envie d'en parler.
Ah, d'accord. En effet, on pourra en parler peut-être plus tard. Tout à fait. Pour en revenir effectivement à cette année 98 et au titre de champion, le titre, une fois qu'il est gagné, c'est une onde de choc sur déjà, j'imagine, tous les Hauts-de-France. Et est-ce que c'est une onde de choc aussi sur l'ensemble de la France? Parce que avant quand même le club précédent qui brillait par tout ça, on peut penser à Marseille 93 et son épopée européenne. Là, pour le coup, c'est Lens qui est un peu à l'opposé quand même, hein, déjà géographiquement, mais peut-être aussi en termes de football. Les répercussions finalement en France et au niveau européen de ce titre, quelles sont-elles?
Alors là, j'allais dire, si on était très chauvin, nombriliste, bah oui, forcément, ça a changé le monde du football français. Non. Non, non, faut être réaliste. Ça a été énorme sur la région. Quand on regarde ce qui s'est passé le soir du match, enfin, du retour d'Auxerre, c'était... Même en me relisant, j'ai encore des frissons en racontant ce moment, parce que c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Incroyable. Des gens qui pleurent, des gens qui vivent leur truc. Enfin, sur le plan national, oui, ça faisait sourire, c'était gentil, parce que d'un seul coup, c'est comme comment Montpellier a gagné à 3-4 ans, ou Lille l'année dernière pour le championnat. Enfin, bah, c'est super, ça apporte un peu de fraîcheur. Mais à l'époque, ça restait Paris, Monaco, Marseille, les favoris, quoi. Et avec des équipes, reprenez les effectifs. C'était chaud quand même, hein. C'était quand même Henry, c'était quand même Rai, c'était quand même... Enfin, il y avait des mecs dans les autres équipes. C'était au début du championnat, c'était même pas la peine de faire le championnat. On pouvait pas faire partie de ces trois premiers, quoi. Donc c'était plutôt, j'allais dire, un moment de fraîcheur nationale, mais pas une révolution culturelle, quoi. Faut pas non plus... Non.
Mais du coup, ça a choqué ou pas à cette époque, le fait qu'un...
Alors, c'est assez drôle d'ailleurs. Il y a un moment important dans l'histoire, c'est au moment où on sent que les médias basculent. Au début, c'est gentil. Non mais ils vont y arriver, c'est pas possible. Et alors là, d'un seul coup, on a l'afflux des journalistes, on a l'afflux des médias, on a l'afflux de même des clubs étrangers qui viennent voir, c'est qui ces joueurs. On commence à avoir ce que vit aussi le club de Lens actuellement, hein, des recruteurs qui viennent voir, qui commencent à foutre un peu le bazar dans le système. Enfin, et ça, c'est difficile à gérer aussi, hein, dans la durée. Se protéger de cet impact médiatique, parce qu'au départ, quand vous jouez, vous avez un journaliste ennemi, et c'est celui de la Voix du Nord qu'on connaît par cœur, et puis 6 mois plus tard, vous avez 10, 15, 20 journalistes qui sont là tous les matchs, quoi, avec des sollicitations, avec des mobilisations. Donc bien sûr que ça bouscule les repères, quoi. Mais ça bouscule l'écosystème, ça va pas révolutionner le foot français, quoi.
Mais alors après, dans l'organisation quand même du club, une fois que le titre a été gagné, qu'il faut anticiper la future campagne européenne à venir, qu'il y a beaucoup plus d'abonnés, comment le club a géré finalement ce changement de stature? Parce qu'on passe, vous l'avez dit, hein, de 8000 à 32000, c'est x4, donc j'imagine que finalement tout est multiplié, démultiplié.
Alors là, on parle des abonnés, mais après... Tout était dans cet esprit-là, le nombre de partenaires, d'entreprises. Donc on avait des petits entrepartenaires locaux, d'un seul coup on a des partenaires nationaux, avec des marques nationales, et puis on est, pour vous donner un ordre d'idée, en 97, je crois qu'il doit y avoir à peu près 50 salariés dans le club, joueurs compris. Donc ça fait pas beaucoup de monde, entre guillemets.
En effet.
et c'est le titre. Et je crois que 2 ans plus tard, il y a 250 salariés. Donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis resté moi, non pas pour m'occuper, j'allais dire, de la partie sportive et du club, je m'en occupais, mais pour tout le reste aussi, c'était comment on gère cette croissance, comment on manage cette croissance, comment on organise cette croissance. Parce que là, c'est des réflexions. On oublie toujours que derrière un club, derrière un terrain de jeu où il y a 2 fois 11 joueurs, il y a un écosystème. Et cet écosystème, il est extrêmement important. Et il influence énormément le jeu. Ça se voit pas, mais c'est énorme, quoi. Et là, d'un seul coup, vous imaginez l'écosystème qui est restreint, d'un seul coup, qui est multiplié par 5, avec les impacts médias, les sollicitations, les partenaires, les ceci, les cela, l'organisation, les déplacements, bah, tout devient énorme, quoi. Une radio à l'époque, enfin, pas des gens qui vont s'occuper de la communication, télé, enfin, il va y avoir plein de trucs qui vont se développer partout. C'est de la folie. Le merchandising, je n'en parle même pas, là, c'est de la folie, quoi. Les ventes de maillots, de goodies, de ceci, de cela. Enfin, Donc c'est un écosystème, et cet écosystème, il faut qu'il reste cohérent. Et c'est ça qui est compliqué à gérer dans la durée.
Justement, après cela, il a fallu essayer peut-être de le maintenir. Alors effectivement, on anticipe les années qui suivent forcément le titre, mais si on peut en parler un petit peu, comment on maintient finalement un tel changement, comment on réussit à faire en sorte que le nouveau modèle qu'on met en place pour répondre aux questions, aux nouvelles questions suite à ce titre de 98, comment on fait, est-ce que c'est facile à faire surtout?
Alors c'est là où c'est des problématiques managériales. Comme dans n'importe quelle entreprise, c'est que gérer la décroissance, c'est difficile. On va le voir des années plus tard quand on descend, quand on revient en nationale, enfin deuxième division. Mais c'est aussi très difficile de gérer de la croissance, surtout quand c'est exponentiel. Parce que d'un seul coup, tout est nouveau, tout est différent. Je me souviens, les premiers déplacements à l'étranger en Champions League, waouh quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un truc tout bête, par exemple, pour bien comprendre. Quand vous faites un déplacement en Coupe d'Europe, il y a toujours un déjeuner avec les dirigeants des deux structures, la veille du match. Quand je dis les dirigeants, c'est les présidents, les directeurs généraux, enfin bon, ce qui représente un dîner officiel de 15, 20, 25, 30 personnes, ça dépend un peu qui vient, quoi. Ben rien que ça, comment ça se fabrique? Comment on le fait? C'est quoi les protocoles? Parce que c'est un peu des protocoles politiques, quoi. Et moi, je me souviens du dîner de Milan AC. Et là, on s'est regardé. Je me souviens à l'époque avec Gervais et autres. C'était 2 ans plus tard. Mais je me souviens, j'étais à côté parce que le président du Milan AC à l'époque, c'était Berlusconi. Mais que t'es pas lui président opérationnel parce qu'il pouvait pas l'être, puisqu'il était président à l'époque. Et donc, c'était son, je ne sais plus comment il s'appelle, un crâne rasé aussi extraordinaire, ce président de Milan AC, qui était là à côté de nous, là, qui était, et c'est comme si on regardait à la télé les trucs et puis qu'on les vivait en vrai, enfin. Mais tout ça, c'était, comment vous gérez l'arbitrage parce qu'il faut les accueillir, enfin. Tout devient nouveau, différent. Bon, bah, c'est une découverte. Puis, il faut s'adapter. Donc, il y a des choses qui sont bien faites, des choses moins faites. Dès qu'on découvre, quoi.
Forcément. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être évoquer aussi cette saison qui a des similitudes, si vraiment on est optimiste, avec celle de 98. Est-ce qu'on pourrait, si on anticipe un peu et qu'on est optimiste, avoir un résultat européen?
Ce que je trouve assez incroyable, mis à part le titre, mais c'est que nous, alors, faudrait reprendre l'histoire, parce que j'ai pas la mémoire des dates, mais il y a un moment donné, dans l'année 98, on est à, je sais plus, 7-8 points au mois de mars, un truc comme ça, et bon, c'est plié, quoi. Personne ne pensait au titre, et même en interne, c'est a priori, on venait de perdre machin, match, et en fait non, et en fait on revient, et on fait une fin de saison mais incroyable. Et là, je trouve que Lens, pareil, début de saison magnifique, machin, il y a eu un petit creux, ils sont redescendus, etc. Et là, ils sont sur une série, mais juste de fou, en termes de résultats, mais surtout, je trouve, en termes de jeu. Parce que c'est un jeu, autant on trouvait ce jeu en profondeur extraordinairement puissant en ce moment, sauf que là, on trouve à la fois ce jeu en profondeur, mais aussi maintenant ce jeu aussi qui sait un peu plus stabiliser le match. Quand on regarde le match qu'on a perdu contre le PSG, qu'on aurait dû gagner parce qu'on n'a pas su maintenir à la fin, bah, ces matchs-là aujourd'hui, on les perd pas. Contre Lille, par exemple, ça pouvait se retourner. Et ben non, on est resté malgré, voilà. Donc, il y a une maturité qui est en train de se créer. Il y a des fondations qui sont de plus en plus costauds. Quand on regarde qu'on est à 2 points de la 3e place, eh ben, on peut s'amuser à rêver, pourquoi pas, d'une aventure européenne beaucoup plus brillante qu'on pourrait l'imaginer. Pourquoi pas? Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas, évidemment, j'ai envie de dire. Mais vous avez raison. Et en effet, avec des matchs quand même abordables, si on peut voir ça comme ça, en tout cas au regard de la dynamique de cette saison, avec Nantes à domicile dans les jours qui viennent, en tout cas ce week-end. Ensuite, ce sera un déplacement à Reims. Et puis après, ce sera, que je regarde, à Troyes. Et pour terminer la saison, ce sera un match à domicile. Et ça, une affiche de gala face à Monaco. Donc, finalement, tout est encore vraiment possible. Il y a peut-être entre 6 et 9 points à aller chercher là pour essayer de décrocher une place européenne.
Et c'est là qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe en ce moment et ce qu'on a vécu à l'époque. C'est que c'est plus l'adversaire qui compte. Nous, à l'époque, je me souviens, à la fin de saison, c'était quand même les plus gros, c'était Metz, mais c'est plus l'adversaire qui compte, parce que plus on est fort dans son jeu, plus on essaie de voir comment on va pouvoir jouer son jeu tout le temps, quoi.
Est-ce que là, l'adversaire de Lens, c'est justement le RC Lens?
Ben oui, enfin, c'est, j'allais dire, le propre adversaire, ça va être Lens. C'est pas l'adversaire. Parce qu'à la limite, quand on est capable de faire les matchs qu'ils ont fait là dernièrement, S'ils restent concentrés, sérieux, appliqués sur les fondations qu'ils ont créées, avec une dynamique collective, qu'aucun joueur est en train de se projeter sur la saison prochaine, qu'il n'y a pas des... Parce que c'est tellement fragile aussi à l'inverse. Hein. C'est l'environnement qui va venir perturber le système. Toujours. La pression, elle vient de ce qui se passe autour. Quoi. Si les agents commencent à s'y mettre, si, je sais pas, n'importe quel gros club commence à dire « Tiens, on va prendre tel joueur, tel joueur, tel joueur, ceci, cela. » L'autre, il commence à picoter un peu. Et comment on garde cette focale? Et ça, c'est tout le travail de l'environnement du club. C'est les joueurs, mais ça fait partie de la dynamique, encore une fois, de l'écosystème. Comment on protège ça?
Merci d'avoir écouté le programme local de Radio. Quant à moi, je vous dis à lundi.
La rédaction de Radio vous a présenté En Région. Tous les podcasts de la rédaction sont à retrouver dès maintenant sur eradio.fr.